Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour, bienvenue dans la Grande Tchatch. Nous recevons aujourd'hui Christophe Castaner, député PS et maire de Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence, et tête de liste PS-UDE-MRC à la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
À mes côtés, Michel Guéraud, rédacteur en chef du mensuel le ravi que vous pouvez retrouver dans tous les kiosques, également sur internet, www.leravi.org. Alors, Christophe Castaner, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité, et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Vous avez perçu l'émotion dans sa voix. J'ai rarement vu un journaliste chevronné comme Rafi Hamal autant impressionné avant de recevoir un invité. Mais je dois avouer moi-même que je n'emmène pas large au moment de questionner l'homme qui veut faire de notre région la Californie de l'Europe. Car, chers auditeurs, chères auditrices, nous recevons aujourd'hui Christophe Castaner. Il se trouve là, dans ce studio, face à nous, en chair, en os et surtout en muscles. Christophe Castaner, les sondeurs prétendent que 69% des habitants de PACA ne vous connaissent pas. Faisons donc ensemble, sur cette antenne, exploser votre indice de notoriété. Castaner, vous êtes donc le Chouardi de la social-démocratie. Sur le champ de ruines du socialisme bucco-rhodanien, vous êtes descendu de vos alpages pour préserver la maison région de l'assaut des barbares d'extrême droite et de droite extrême. C'est vous, député des Alpes de Haute-Provence, maire de Fort-Calquier, jadis terre burgonde conquise par le roi des Ostrogoths, que les militants du PS ont choisi pour reprendre le flambeau de Michel Vauzelle après 18 ans de règne. Rien ne vous fait peur, et surtout pas la déferlante médiatique autour du duel supposé entre Marion Maréchal, nous voilà, Le Pen, et Christian Estrosi, le motodidacte de la Riviera. Rien ne vous fait mal, même pas la concurrence sur votre gauche de la liste conduite par le glamoureux tandem Sophie Camard et Jean-Marc Coppola, fédérant écolo et front de gauche. C'est qu'à 49 ans, vous avez déjà le cuir bien tanné et n'êtes plus, depuis longtemps, un débutant. Né à Ouloul, dans le Var, vous avez grandi à Manosque. Adolescent, au grand dam de votre père, un militaire, vous désertez durant 2 ans les bancs du lycée. Mais vous revenez vite dans le droit chemin. Candidat libre, vous réussissez haut la main votre bac. Cette même année, en 86, pour vos 20 ans, vous prenez votre carte au PS, rejoignant les troupes alors clairsemées de l'empereur de la deuxième gauche, alias Michel Rocard. Car le Castaner n'est jamais là où l'on s'y attend. Cravatophobe, adepte d'une communication décontractée, maire d'une ville qui fait rêver tous les alters néo-ruraux, vous revendiquez votre pragmatisme politique et assumez votre proximité avec Emmanuel Macron, dont vous avez rapporté la loi à l'Assemblée nationale. Identifié comme l'un des moins parisiens des candidats, vous connaissez pourtant très bien l'univers des ministères. Vous avez été chef de cabinet de Catherine Trottmann, ministre de la Culture, puis de Michel Sapin, ministre de la Fonction publique. Perçu comme un nouveau venu, vous avez été tout de même à 2 reprises vice-présidente de la région, d'abord en charge de l'aménagement du territoire, ensuite en charge de l'emploi et de l'économie. Quant à ceux qui doutent encore de vos capacités à présider PACA, concluons par 2 éléments moins connus de votre CV. Titulaire d'un DESS de juriste d'affaires international, vous êtes aussi diplômé en criminologie, une compétence utile pour qui s'engage en politique. Et surtout, vous présidez le groupe national Loup, dans lequel, défenseur de la veuve et de la brebis, vous n'hésitez pas à prôner quelques coups de fusil pour mater les meutes féroces qui hurlent dans nos campagnes. Christophe Castaner, pas d'erreur de casting, vous avez bel et bien l'envergure d'un gouvernator.
Christophe Castaner, une réaction à ce portrait à la sauce ravie, bien sûr.
Non, pas de réaction. Un commentaire, j'ai hélas même pas eu mon bac haut la main. Je l'ai eu de justesse au rattrapage, avec beaucoup de chance. Et c'est vrai que comme quoi, de temps en temps, un peu de chance peut changer une vie.
Alors avant d'en arriver au régional, au programme, etc. Un mot pour commencer, une réaction plutôt sur l'actualité tragique qui a eu lieu dans la capitale de la région, en l'occurrence Marseille, où 3 jeunes, dont 2 mineurs de 15 ans, ont été exécutés lors d'une énième règlement de compte dans les quartiers nord. Fatalité, on fait comme le Premier ministre, on se contente de faire un commentaire sur un tweet et on passe vite à autre chose, ou il y a quelque chose à faire réellement pour changer les choses, Christophe Castaner ?
Un peu facile la remarque sur le tweet. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi le résultat du fait qu'aujourd'hui, depuis le début de l'année, vous avez 10 réseaux de trafic de drogue qui ont été démantelés sur Marseille. Et à cela, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la fermeté. Et la fermeté, ça implique des moyens. Là où la droite avait supprimé en France 13 000 emplois dans la police et dans la gendarmerie, ce gouvernement actuel en a remis en place. Ça fait 400 emplois de plus sur Marseille, ça porte ses fruits. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire, quand vous démantelez un réseau, vous avez un nouveau réseau qui se met en place. Ça peut nous amener peut-être à un moment donné à se poser enfin la question aussi de l'organisation légale de la vente du cannabis.
Alors justement, on a vu la réaction ce week-end de la sénatrice Samia Ghali qui, elle, dit qu'il faudrait une peine à deux chiffres pour les trafics de stupéfiants. Vous êtes d'accord avec ça ?
Ça ne changera strictement rien. Quand un gamin qui n'a pas d'avenir a la possibilité de gagner 100, puis 200, puis 500 euros par jour, vous aurez beau évoquer une peine plus importante, ça ne changera rien. Est-ce que la suppression de la peine de mort a mis un terme ou a augmenté le nombre d'assassinats en France ? Non. On sait très bien que ce n'est pas la peine qui fait la réalité. Mais il y a une espèce de déterminisme social dans nos quartiers, et c'est ce déterminisme social-là qui, contre lequel il nous faut lutter. Moi, j'étais ce matin, non pas sur le site pour faire le cow-boy, mais pour aller visiter la maison régionale de la santé de Malpassé, à quelques centaines de mètres du site. Vous avez aujourd'hui 29 spécialités qui sont représentées, 5 médecins généralistes qui sont installés, et qui depuis 3 ans, alors qu'ils sont dans un quartier sensible, n'ont jamais été caillassés, tagués, agressés, tout simplement parce que quand on apporte le respect dans les quartiers difficiles, les jeunes vous renvoient aussi le respect.
Alors, il y a quelque temps de ça, le Ravi a fait un dossier assez documenté sur le cannabis. Vous, Christophe Castaner, vous êtes député, vous êtes maire également de Fort-Calquier, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes candidat à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous êtes favorable à la dépénalisation de du cannabis ?
Moi, je pense qu'il faut faire la différence entre la consommation personnelle de certains qui plantent et qui cultivent et la commercialisation qui est organisée. Donc, il y a des vertus curatives, thérapeutiques, qui doivent être encadrées, qui doivent passer par les pharmacies. Et puis, je crois qu'il faut prendre en compte aussi la consommation personnelle de chacun. La réalité médicale, c'est que le cannabis est particulièrement dangereux quand il n'est pas encadré, notamment sur les plus jeunes jusqu'à 25 ans.
Vous êtes favorable au coffee shop à la hollandaise ?
Si c'est encadré et si c'est destiné aux adultes de plus de 25 ans, j'y suis favorable. Vous voyez, je suis un peu provocateur, mais j'ai décidé en venant ici de ne pas être langue de bois.
Donc on peut dire que Christophe Castaner est favorable au cannabis, à la consommation de cannabis à usage personnel.
Et vous pouvez rajouter qu'à titre personnel, je ne consomme pas, tout simplement parce que je n'ai pas cette curiosité là.
C'est ma prochaine question, Michel Guéraud.
Pourquoi sur ce dossier, effectivement, des policiers, aux médecins, aux juristes, tout le monde fait le constat que ça, la criminalisation du cannabis ne débouche sur rien et sur une impasse. Et oblige les forces de police justement à faire des choses qui ne sont pas forcément primordiales.
Parce qu'on a la capacité dans ce pays à refuser certains débats et à s'enfermer derrière une posture de dogme, etc. Ce que je viens de vous dire, si c'est repris par mes adversaires, ça pourra faire une polémique. Et ça pourra faire une polémique qui se retourne contre moi. Je l'assume, vu que je viens de vous le dire. Et que je sais que je parle à micro ouvert ici et que ça peut être entendu. Mais on est hélas habitué à refuser des débats qui pourtant nécessitent d'être posés. Aujourd'hui, la réalité, c'est celle du fait que, alors qu'on met des moyens supplémentaires, alors qu'on a démantelé 10 réseaux bien structurés, bien organisés sur Marseille, évidemment, il y a de nouveaux réseaux qui se mettent en place. Et les 3 morts d'hier dans ces quartiers sont la conséquence d'un nouveau réseau qui se bat avec un futur nouveau réseau.
D'accord. Michel ? On a beaucoup parlé, les médias, mais nous aussi dans le petit portrait là qui a précédé l'interview, de votre manque de notoriété par rapport en particulier aux candidats qui sont face à vous. Là, bon voilà, ça y est, depuis hier, on est dans la campagne officielle. Est-ce que c'est vraiment un handicap pour vous et vous ramez vis-à-vis justement de ce système médiatique et du fait de... peut-être moins connu qu'un Estrosi, qu'une Marion Maréchal Le Pen.
Écoutez, mon objectif est qu'il y ait 4 200 000 personnes qui écoutent sur 80.8 Radio Grenouille et que ça me permette de progresser sur ce sujet. Plus sérieusement, je vais vous donner un chiffre.
51%. Et autant qu'ils lisent leur avis quand même, le journal, c'est plus important.
Et pardon, autant aussi. 51% des gens qui ont été sondés dans les derniers sondages, qui ont voté François Hollande au premier tour de la présidentielle, ne votent pas pour moi dans cette élection. 51% ne votent pas pour De Saint-Aignan dans le Nord-Pas-de-Calais et 51% ne votent pas, et c'est le même chiffre, pour Claude Barthelone en Ile-de-France. Et pourtant, la notoriété de Claude Barthelone, elle est supérieure à la mienne. En vous disant cela, je vous dis quoi ? Qu'on est dans une élection politique et qu'on est dans une élection qui est nationalisée jusqu'à présent. Et puis, il y a la notoriété négative. Moi, franchement, on m'accorde 31% de notoriété. Déjà, ça me surprend, je trouve que c'est beaucoup. Je pense que les sondeurs ont un peu exagéré sur cela. Mais en plus, ce que je peux noter quand même, c'est que aujourd'hui, Christian Estrosi a une notoriété négative spectaculaire. C'est l'homme de droite le plus impopulaire de France. Et c'est le cas aussi dans cette région. Il a même une notoriété négative supérieure à celle de Marion Maréchal Le Pen. Donc vous savez, je ne crois pas que ce soit une course à la notoriété. Je passe moins souvent sur BFM, mais ça tombe bien, je ne regarde pas souvent BFM.
Michel ?
Oui, alors par contre, vous parlez de effectivement la dimension nationale de ce scrutin, et là aussi, c'est une difficulté à laquelle vous êtes clairement confronté. Vous êtes passif, finalement, du bilan de ce gouvernement dans une élection intermédiaire.
Vous avez raison, c'est ma principale difficulté, à la fois vis-à-vis de la droite et à la fois vis-à-vis de ma gauche. Vous savez très bien, et on va sûrement l'aborder, qu'il y a deux listes à gauche et que l'essentiel des reproches qui nous sont faits sur l'autre liste de gauche, c'est la dimension nationale du débat. Et puis à droite, c'est effectivement leur volonté de nationaliser le débat pour ne parler que du national. Ma seule réponse, c'est de parler de la région, de porter la région, de visiter la région, d'incarner la région et de ne jamais être l'homme d'un territoire contre le reste du territoire. Christian Estrosi a par exemple choisi de rester premier adjoint de Nice et président de la métropole de Nice. Imaginez ce que ça implique, un minimum de sympathie et même d'équilibre vis-à-vis des Marseillais, par exemple.
Alors, est-ce que c'est vraiment possible, ça, de s'abstraire de cette dimension nationale ? Évidemment, les sondages disent l'inverse.
Non, je ne peux pas m'en abstraire. Mais en même temps, si je ne devais parler que du national, je sais que cette élection, elle est perdue. Et parce que je sais qu'elle est perdue, effectivement, j'ai envie de parler de la région. Et tout ce que je ferai qui permettra de mettre en avant la région sera un élément gagné, non pas électoralement, mais gagné pour la région. C'est la seule stratégie que j'ai. Je suis cynique en vous disant cela. Mais si je me mets effectivement dans le débat national, je sais qu'aujourd'hui, le rejet de François Hollande et du gouvernement est tel que je ne peux pas gagner cette région.
Alors, est-ce que votre profil, justement, social-démocrate, vous le revendiquez, est un handicap dans ce moment où la gauche est... Une partie de l'électorat de gauche est fâchée avec un gouvernement social-démocrate, avec des orientations qui n'étaient pas forcément celles qui faisaient rêver les électeurs qui ont amené François Hollande au gouvernement.
Est-ce que vous avez l'impression que la gauche version Syriza est portée au nu aujourd'hui en France ? La réponse est non. Et donc on voit bien qu'on est, en particulier dans cette région, dans une nécessité d'avoir un discours pragmatique. Moi, je ne veux pas me réfugier derrière des dogmes ou du prêt-à-penser de certains partis parisiens, qu'ils soient le Parti communiste, mais aussi le Parti socialiste. C'est pour ça que je veux parler de la région.
Vous voulez parler de la région, en même temps, on vous qualifie ou vous êtes qualifié vous-même avec des propositions raisonnables et finançables. Est-ce que l'électeur en période de crise, l'électeur, lui, en période de crise, a plutôt besoin de rêver ? Est-ce que la gauche est devenue si sage, Christophe Castaner, qu'elle ne fait plus rêver ou qu'elle ne prend même plus le risque de faire rêver ?
Je crois qu'il y a la question de chercher à faire rêver et pour cela mentir. Et donc faire des promesses inconsidérées chaque fois qu'on se déplace. C'est pas ma culture. Mais je pense surtout que c'est ce qui a abouti aujourd'hui au rejet de toute la classe politique. Et à travers ce rejet de toute la classe politique, la montée en puissance du Front National. Qui fait rêver sans rien promettre. Mais tout simplement en dénonçant toutes les promesses non tenues par d'autres.
Alors Macron, un mot sur Macron. Rapporteur de la loi, alors vous allez nous expliquer que c'était juste une partie de la loi Macron que vous avez défendue à l'Assemblée nationale. Mais tout de même, vous assumez donc une proximité avec Emmanuel Macron. Et qu'est-ce que vous répondez donc à ceux qui, comme Martine Aubry, disent ras-le-bol de cette gauche-là ?
Non, d'abord, Martine Aubry n'a pas dit cela, mais je ne suis pas là pour commenter Martine Aubry. Si Martine Aubry veut prendre des responsabilités, elle est immédiatement reçue dans le gouvernement et elle pourra occuper le ministère de son choix. Donc moi, je ne suis pas dans le commentaire, je suis dans le faire. Et Macron, il est dans le faire. Et pour ma part, je suis intervenu notamment sur la réforme de l'épargne salariale. 11 millions de Français pourront l'année prochaine profiter de l'épargne salariale, ils en étaient exclus, je ne le regrette pas. Et si vous voulez, on va balayer les 420 articles de la loi Macron et on va s'apercevoir que dans le quotidien de beaucoup des Français, il y a de vraies avancées positives. Alors ensuite, il y a 2-3 sujets qui ont été totalement fantasmés et qui servent de fonds de commerce à ceux qui ont décidé que Macron était de droite et que de toute façon, ce gouvernement est de droite. Mais moi, il m'arrive de lire la presse, de lire par exemple l'interview de Nicolas Sarkozy il y a une quinzaine de jours dans Les Échos, et il suffit de lire cela pour se dire qu'il y a une vraie différence entre la droite, telle qu'elle est réelle aujourd'hui et telle qu'elle sera demain, et la gauche telle qu'elle est portée par le gouvernement de Valls et par François Hollande.
Vous assumez donc une ouverture, et ce qui fait que dans les Bouches-du-Rhône, qui est quand même le département qui généralement en PACA envoie le plus d'élus socialistes à la région, vous avez choisi une tête de liste venue du centre, Christophe Madrol, anciennement écologiste. Ça fait partie du système Castaner, de votre choix de gouvernance.
Tout d'abord, avant de répondre, Christophe Castaner, quelle a été votre, en pourcentage, votre implication dans le choix réel, votre implication réelle dans le choix de cette liste ? Vous l'avez choisi à 100% ou...
Alors, liste qui n'est pas encore connue dans son ensemble.
Ah non, on va se parler franchement. Oui. Sur la tête de liste, j'ai pesé de tout mon poids. Et on pourra y revenir.
Pour choisir
si vous
Christophe Madrol.
Pour deux choses. D'abord, pour demander à Jean-David Ciotte, premier secrétaire du Parti socialiste, de ne pas être tête de liste. Jean-David a un empêchement. Il est convoqué en correctionnel, on appelle 15 jours avant le premier tour avec Jean-Noël Guérini. Et donc, ça me paraît incompatible avec sa candidature. J'ai pesé, c'était un combat difficile, je l'ai mené. Et je ne dirais pas que je l'ai gagné, mais la raison a été entendue et donc Jean-David n'est plus candidat. Et ensuite, j'ai voulu, en proposant à Madrolle d'être tête de liste, montrer que je ne faisais pas une liste socialiste. J'ai appelé et cherché à rassembler tous les partenaires. J'ai tendu la main jusqu'au bout, j'attends encore Europe Écologie et au Front de Gauche. Ils ne l'ont pas souhaité. Mais aujourd'hui, j'ai le Parti Occitan, j'ai de nombreux partenaires, vous les avez cités, le PRG, le MRC, qui nous ont rejoints. Et je continue d'ailleurs à travailler avec Génération Écologie, par exemple, pour qu'ils soient avec nous, et je suis sûr qu'ils seront avec nous aussi. Parce qu'il me semble que conduire une liste sociale aux socialistes, ce serait aller à l'échec. Et pour répondre complètement à votre deuxième question, la liste des Bouches-du-Rhône, je n'ai quasiment pas pesé sur la liste des Bouches-du-Rhône, qui est résultat de savants équilibres pour ce qui concerne le Parti Socialiste.
Ça veut dire que vous l'avez subi?
Je ne l'ai pas subi, parce que c'est le choix des militants socialistes, et donc je le respecte. Par contre, j'ai veillé à ce qu'il y ait des personnalités qui puissent compléter cette liste, et qui, sans modifier l'ordre, sans modifier le choix des militants socialistes, sera complétée par des personnalités que je présenterai dans quelques jours.
Alors, il y a des crispations, on verra la liste, elle va être définie, mais revenons-en à la tête de liste, à ce choix de Christophe Madrolle. Vous avez, comme l'a dit Michel Guéraud, un déficit de notoriété. En même temps, vous prenez quelqu'un qui a un parcours politique qui est flou, c'est le moins que l'on puisse dire, puisqu'il est passé par différents partis, qui a une notoriété qui est vraiment, qui n'est pas très reconnue dans le département des Bouches-du-Rhône. C'est un département qui va faire l'élection, quand même, il faut le dire. C'est le département le plus important. Et vous l'avez quand même choisi, et avec ça, vous êtes optimiste pour gagner.
Alors, on va inverser votre question. Ouais. Je vais m'amuser à faire le journaliste. Je vais vous citer les personnalités connues, vous me répondez oui ou non pour savoir si ce sont de bonnes têtes de liste.
Moi, mon travail, c'est pas de répondre à ce genre de choses.
Vu qu'on a une heure devant nous, je vais vous citer des personnalités connues.
Moi, je fais une école de questions, alors allez-y.
Des personnalités connues dans les Bouches-du-Rhône. Patrick Menucci. Non, vous ne répondez pas, mais je ne suis pas sûr. Marie-Alette Calotti. Henri Gibrayel. Vous apercevez que les personnalités connues du Parti Socialiste n'étaient pas disponibles pour ce combat. Et je ne parle pas de leur qualité reconnue et évidente pour chacun d'entre nous. Et donc, très clairement, c'est à partir de ce constat-là que j'ai voulu une personnalité qui ne soit pas un cadre politique, mais qui soit un citoyen. Un citoyen engagé, qui a siégé 10 ans en présidant le groupe écologie à la ville de Marseille, parce qu'il a porté ces combats-là.
Qui a mis ce groupe-là sous tutelle, qui a été mis sous tutelle par... Benamias, ça c'est l'histoire.
Ils sont restés extrêmement proches, rassurez-vous l'un et l'autre.
Tout à fait, vous avez parlé tout à l'heure de probité en parlant de Jean-David Ciot. En même temps, on vous affichait avec d'autres candidats qui ont des soucis actuellement avec la justice. Je pense à M. Gibrayel par exemple. Vous avez décidé de mettre la probité partout ou est-ce qu'elle est sélective pour vous?
Je ne crois pas une seconde que Sébastien Gibrayel, qui sera certainement sur la liste, il n'est pas sur ma liste. Par contre, du coup, si vous pensez qu'il faut éliminer tous les gens qui un jour ont travaillé avec Jean-Noël Guérini, éliminer tous les gens qui sont membres de la famille de quelqu'un qui un jour a travaillé avec Jean-Noël Guérini, j'ai peur qu'il ne reste plus beaucoup de cadres politiques dans les Bouches-du-Rhône, même à droite.
C'est une difficulté quand même, c'est-à-dire que on l'a dit aussi de façon satirique, mais cette fédération des Bouches-du-Rhône qui a été historiquement une des plus puissantes en France, dans le Parti Socialiste, et aujourd'hui quand même bien bas. Donc ça, vous pensez que c'est surmontable et qu'on peut, dans cette campagne et sur ce champ de ruines, construire quelque chose de solide?
Je veux dire, d'abord, il y a la difficulté de la faiblesse du Parti Socialiste et hélas, pas que dans la Fédération des Bouches-du-Rhône. Mais il y a la faiblesse de tous les partis. Quand vous savez que la ligne politique qui a conduit Sophie Camard à choisir une alliance sur son aile gauche a été décidée par 112 militants pour l'ensemble de la région PACA, c'est bien le signe qu'on est en fragilité. Mais vous avez raison. J'ai en plus un boulet supplémentaire d'une fédération qui est très divisée, qui est très affaibli par des combats qu'ils se sont menés entre eux systématiquement. C'est peut-être aussi pour ça qu'on est venu me chercher. C'est qu'il fallait quelqu'un qui soit en capacité de dépasser ces clivages-là et de tenter de mettre tout le monde au travail. J'ai l'impression d'y réussir.
Non, en même temps, Michel Boisel a dit à propos de la fédération PS, moi j'ai été élu 3 fois sans avoir besoin d'eux, sans leur être redevable. Vous partagez cette synthèse?
Je n'ai pas toute l'histoire de l'engagement de Michel Boisel dans la Fédé, mais c'est vrai que les relations ont toujours été difficiles, et ce fut en particulier le cas lors de la dernière élection, mais surtout entre les deux tours. Précédemment, Jean-Noël Guérini était mobilisé sur la campagne de Michel Boisel, rétablissant aussi cette vérité.
Bon, en même temps, effectivement, il y aura un deuxième tour, et puis vous le dites vous-même, hein, c'est-à-dire qu'a priori, vous allez vous retrouver avec cette liste pastèque rouge et verte. Il va falloir peut-être fusionner, en tout cas, vous avez cette volonté toujours de travailler avec eux. Vous allez faire comme Michel Boisel, chanter Bella Ciao en tribune. Christophe Castaner, social-démocrate pragmatique, est capable de faire vibrer aussi ces troupes-là pour pour les attirer sur, dans une dynamique gagnante.
Moi, je regrette que vous ne m'ayez jamais vu sur scène. Je me suis même produit en spectacle de danse cette année. Et donc, du coup, vous n'auriez pas la même question. Et puis, je pense aussi dans la pastèque, vous savez, il y a deux catégories de pastèque. Il y en a une sans pépin. J'espère que ce sera plutôt une négociation avec la catégorie sans pépin. Non, plus sérieusement, 95% du projet que nous portons est un projet qui est partagé avec cette liste-là. Et 95% du bilan que nous assumons collectivement autour de Michel Vauzel est partagé par chacune et chacun d'entre nous. Donc oui, je suis intimement convaincu qu'on aura les moyens de se retrouver. Mais pas se retrouver pour faire barrage aux idées de la droite extrême ou de l'extrême droite. Se retrouver pour défendre ce projet qu'on a construit et qu'on défend et qu'on va développer encore pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Et comment vous expliquez d'ailleurs aux électeurs qu'en ayant siégé avec Mme Camard et d'autres, aujourd'hui vous ne vous retrouvez pas pour une élection et que vous allez peut-être vous retrouver après-demain, pas demain mais après-demain, au deuxième tour s'il y a un deuxième tour?
C'est pas à moi qu'il faut poser cette question, parce que moi je suis partisan et je reste partisan d'un accord politique. J'ai proposé, vous parliez de la tête de liste, j'ai proposé la tête de liste dans les Bouches-du-Rhône à nos partenaires du Front de Gauche. J'ai proposé à Sophie Comard, Europe Écologie, le maintien d'un groupe de la même importance qu'actuellement, il est particulièrement important, au sein de notre exécutif régional et la première vice-présidence d'une région que nous pourrions piloter ensemble. Et donc je continue à faire ces propositions-là. Parce que je pense effectivement que nos électeurs ne comprennent pas, surtout au moment où nous sommes affaiblis. Regardez les sondages. Tout le monde considère que cette élection, elle est perdue et que nous sommes décrochés. Et vous m'avez fait l'amabilité de ne pas le dire aussi brutalement tout à l'heure, mais vous le pensez un peu. Mais si vous cumulez dans les premiers sondages les voix de la liste que je conduis et les voix de Sophie Camard, vous apercevez qu'on est au même niveau que Christian Estrosi. Et que du coup, la dynamique que nous aurions pu créer en montrant aux électeurs qu'on est capable, pour cette région, de dépasser ce qui nous sépare au niveau national, aurait été une dynamique gagnante. Faisons en sorte qu'elle ne soit pas perdante pour le second tour.
Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous n'avez pas trouvé les mots, c'est les jeux d'appareil. On veut comprendre. Réellement, on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ça n'accroche pas avec Europe Écologie Les Verts?
Pour moi, c'est un jeu d'appareil. C'est 112 militants qui ont décidé d'une ligne politique qu'un parti met en œuvre aujourd'hui. Et Sophie, là-dessus, est légitime à le faire, dans la mesure où ce sont ces militants qui ont choisi cette ligne-là. Moi, je le regrette. J'ai tenté de tendre la main une ultime fois, encore mi-juillet, en écrivant à la fois à Jean-Marc et à la fois à Sophie, et j'ai jamais eu de réponse à ce courrier-là. Et je continue et je profite de vos ondes pour porter ce discours-là. Je sais que c'est en même temps difficile pour les militants. Vous savez, nos militants sont toujours beaucoup plus durs que les cadres politiques. Dans le Parti Socialiste, mais dans tous les partis, c'est la même chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les militants, et en particulier, par exemple, les militants du Front de Gauche, sont très remontés contre le Parti Socialiste. Mais à l'inverse, je suis impressionné par le nombre de militants d'Europe Écologie qui n'acceptent pas le choix qui a été fait dans cette région et qui ont sollicité notamment des places sur ma liste. Et je n'ai pas souhaité leur en accorder parce qu'il ne s'agit pas pour moi de déshabiller Paul ou Jacques, je ne dirais pas Sophie parce que ce serait mal interprété, de déshabiller tel ou tel, parce que ce qui compte, c'est pour moi de faire le meilleur score possible, mais aussi d'avoir à ma gauche un rassemblement pastèque, mais je reprendrai un rassemblement vert et rouge, qui permettra de faire le meilleur score. J'ai besoin que la liste de Sophie Camard fasse le meilleur score. Et j'ai besoin que mon score soit le meilleur aussi pour qu'on puisse conserver cette région à gauche.
Vous avez haussé le ton, vous leur avez dit que c'était la dernière élection avant la grande échéance législative et présidentielle et que d'une manière ou d'une autre, vous allez leur faire payer, par exemple, pour récolter les signatures ou autre.
Moi, je ne suis pas un homme de parti. Je n'ai jamais voulu siéger au secrétariat national du Parti Socialiste. Ça m'était proposé quelques
fois. Vous avez l'oreille de Cambadélis, quoi.
Oui, ben j'espère bien quand même, en étant le candidat ici. Mais je ne suis pas un homme de parti, donc je ne m'amuse pas à menacer qui que ce soit de sanctions à venir. Je pense qu'en plus, la menace n'est jamais une bonne politique.
Michel ?
Alors, on est au début de la campagne officielle. Il se dit que ça sera après les vacances, que tout ça va démarrer, que les gens vont commencer à s'intéresser à cette histoire. Vous pensez vraiment qu'il n'est pas trop tard? Vous n'avez pas décroché? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs de Grenouille qui pensent que cette région, comme on l'entend un peu partout, comme dans les médias, les grands médias, comme le disent les sondeurs, est perdue pour la gauche?
Il suffit qu'il y ait 5% de l'électorat de gauche qui, aujourd'hui, s'abstient à y voter. Donc on a 45 jours pour donner envie à 5% de gens de conserver une majorité de gauche dans cette région, de conserver tous les acquis de la politique de Michel Vauzel. C'est ça la réalité politique dont on a besoin. On sait très bien que ces élections régionales ont toujours joué une fonction de mid-term. Ça nous a aidé à les gagner. Et le problème de ces élections-là, c'est que l'électorat du parti qui est en place, du parti majoritaire en France, ne va pas voter. Alors qu'à l'inverse, on voit sur le Front National, et ça c'est une vraie évolution ces dernières années, qu'il y a une fidélité dans le vote du Front National avec un haut niveau de participation. C'est lié à l'âge aussi pour l'UMP dite républicaine. On a une population plus âgée qui est très fidèle au vote, qui votent UMP et donc aujourd'hui se mobilisent. Et pourtant, malgré ça, vous voyez le score du candidat Estrosi qui est extrêmement faible, extrêmement bas. Pour le rassemblement de toute la droite, il est à moins de 35% dans une région qui a toujours été à droite.
Et finalement, rien n'aura servi. Le dernier référendum qui a été organisé par la rue de Solferino n'a pas servi à réveiller vraiment les lecteurs de gauche, puisque les derniers sondages vous donnent derrière Estrosi et Marion Maréchal Le Pen.
S'il avait suffi d'un référendum du Parti Socialiste pour réveiller toute la conscience politique de gauche...
À entendre M. Cambadélis, c'était quasiment ça, c'était réglé, hein, y compris pour l'élection présidentielle, quasiment.
Non, mais regardez, il y a 25 000 personnes dans une région comme la nôtre qui ont été votées. Et qui, du coup, sont aussi un message qui était adressé aux militants socialistes, mais aussi aux militants d'Europe Écologie Les Verts et aux militants du Front de Gauche. C'est un message collectif qui nous a adressé. Évidemment, certains ont voulu l'entendre, d'autres ne veulent pas l'entendre. Mais j'espère que nous ne serons pas dans le cas de figure que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire un vrai décrochage, et qu'in fine, nous ne soyons pas en train de pleurer sur l'avenir de cette région quand c'est Marion Maréchal Le Pen, avec son niveau d'incompétence globale pour elle comme pour ses colistiers, et surtout cette absence totale de projet régional qui sera en responsabilité.
L'incantatoire ne sert à rien. Le terrain.
C'est tout le sens de mon engagement, de ma campagne aujourd'hui.
Michel.
Alors le bilan, vous avez un bilan, enfin Michel Vauzelle, 18 ans, on le disait, hein, et vous avez été deux fois vice-président. Alors on le sait...
Vous avez démissionné en 2012. Hein.
Oui.
Un bilan n'est...
Démissionné quand j'ai été élu député.
Un bilan n'est jamais forcément un argument très, très puissant pour mobiliser des électeurs, mais tout de même... C'est difficile, ça. C'est-à-dire dire, vous voulez faire mieux, pareil.
D'abord, vous le reprenez entièrement, ce bilan, parce que bon, il y a des choses positives. Trois mandats, heureusement. Et il y a aussi des choses qui sont pas GG, quand même. Génial.
Bah, on va en parler, si vous voulez. Moi, je prends tout, parce que je suis pas là pour dire je prends ça et puis pas ça. C'est un reproche que je peux faire à Sophie ou Jean-Marc, par exemple.
Pourquoi, après tout, vous êtes indépendant. Vous pourriez très bien le dire.
Oui, mais je suis pas faux cul. Non, franchement, j'appartiens à cette majorité. J'étais aux côtés de Michel Vauzelle et donc je ne prends pas un petit bout et pour en laisser un autre. Je ne fais pas de la politique avec des pincettes. J'assume. J'assume ces responsabilités-là et peut-être aussi ce discours qui n'est pas un discours langue de bois. Donc je l'assume dans sa globalité. Il n'empêche que ça n'enlève rien au devoir de critique, aux réserves, au constat de difficultés, de fragilités sur la formation
principale
professionnelle,
critique,
sur les transports.
Par exemple, que vous auriez à faire à Michel Vauzelle sur trois mandats.
Peut-être... Une distance au quotidien qui a amené nos concitoyens à penser que la région ne servait à rien. Tout simplement parce que la région est tellement présente dans notre quotidien qu'il fallait l'incarner, qu'il fallait la porter.
Vous lui reprochez d'être à la fois président du conseil régional et député ?
Non, pas député, parce que c'est ce qui lui a permis aussi d'ouvrir un certain nombre de portes. Mais peut-être d'être extrêmement tourné sur l'international et d'avoir négligé le message politique qu'il fallait porter dans cette région sur pourquoi l'international, pourquoi la Méditerranée est particulièrement importante. Mais je ne suis pas là pour... évoquer des réserves sur Michel Vauzelle, surtout pas sur l'homme, mais sur son bilan, j'en assume.
Juste pour finir, vous avez critiqué cette certaine distance qu'il y avait. Si vous êtes élu, par exemple, vous démissionnez, vous n'êtes plus député, vous restez...
Non, je ne serai plus maire immédiatement et je ne serai plus député dans la foulée.
Dans la foulée.
Vous, est-ce que vous faites partie des gens qui reprochent aussi à Michel Vauzelle le train de vie? Alors ça, il y a des attaques là-dessus sur le fameux épisode de l'hélicoptère, la Cour des comptes, pointé par la Cour
régionale
des comptes. Une certaine façon.
Chacun s'est boulé. Hein, l'hélicoptère, c'était il y a 10 ans et depuis.
Il y en a problème. D'autres. Il y a le Cafouch. Il a qualifié de Cafouch l'appartement mis à sa disposition par le contribuable, les voyages, Porto Alegre et autres. Il y a eu beaucoup de choses, trois mandats.
Ouais, je pensais sur Radio Grenouille qu'on pouvait s'épargner ce genre de choses. Et je ne vous dis pas ça pour éviter le débat. Mmh. D'abord, moi, je ne connais pas le type de papier toilette qu'il utilise dans ses toilettes. Mais très clairement, l'histoire d'hélicoptère, la Chambre régionale des comptes en avait parlé. Depuis, il a changé la règle. Et je peux vous dire, pour sillonner cette région, que quand vous devez être présent sur deux déplacements de ministre au même moment, l'hélicoptère peut servir. Une chose est sûre, c'est que c'était un autre temps. Et que ce temps est résolu. Moi, pour ma part, vous savez, je conduis ma petite voiture personnelle et je peux noter que ceux qui donnent des leçons aujourd'hui, je me suis amusé presque à... Et si vous voulez, je vous tiendrai la photo. J'ai roulé derrière la voiture de M. Estrosi à Nice. Je peux dire que j'étais très surpris de voir M. Estrosi dans le dernier Renault Espace, version initiale. Je pense que c'est la voiture la plus chère qui peut exister en France aujourd'hui avec des lumières qui clignotent de partout pour montrer qu'on est quelqu'un d'important. Ce n'est pas ma culture. Mais ça n'est pas non plus la culture de Michel Vauzelle. J'aimerais pas qu'on laisse cette image-là avec vos éditeurs et cette image-là. Michel Vauzelle, c'est vraiment un type qui croit à l'engagement à gauche, qui croit à la question de la mondialisation, mais qui effectivement, à un moment donné, a pu se laisser enfermer dans une tour d'ivoire, parce que la région, avec un cabinet de 15 personnes, avec un service protocole, etc., peut vous couper de cette réalité-là. C'est l'avantage aussi pour moi d'être un élu rural, dans un territoire rural, c'est que la proximité, le quotidien, les engueulades vous rattrapent très très vite.
La Grande Tchatche, l'émission du Ravi sur Radio Grenoble.
Avec nous aujourd'hui Christophe Castaner, tête de liste pour les régionales, et Michel Guéraud, on attaque la deuxième partie.
Les attaques viennent effectivement beaucoup sur la question Estrosi, par exemple, attaque beaucoup sur la question des frais de fonctionnement de la région. Marion Maréchal Le Pen fait la même chose sur la question de la Villa Méditerranée. Donc vous avez bien affaire à des adversaires politiques qui vous amènent sur ce terrain-là. Donc des réponses sur ces deux dossiers, les frais de fonctionnement, Villa Méditerranée, est-ce qu'il y a un train de vie de la région, des économies à faire?
Et le frais de fonctionnement, chaque fois que vous êtes dans l'opposition, vous pouvez tenir ce discours-là. D'ailleurs, l'opposition à Christian Estrosi a pu noter comment, en quelques années, il a multiplié par 8 la dette du Conseil général quand il était président. Comment, alors qu'il a créé la métropole des Alpes-Maritimes, de Nice, même pas de toutes les Alpes-Maritimes, il y a 4 ans, il a réussi à passer de 250 millions d'euros de dette à 1080 millions d'euros cette année. Et donc, ce garçon, dont on voit qu'il ne se déplace jamais avec moins de 10 personnes, avec un service de sécurité, je l'ai encore vu à Arles le week-end dernier, tout ça, c'est ça aussi le frais de fonctionnement. Et donc, ce garçon, aujourd'hui, donne des leçons. Et donc, très clairement, on est dans la pantalonnade.
Vous voulez dire que les bouches du Rhône sont anxiogènes pour Christian Estrosi?
Ouais, mais je pense que non. Vous savez qu'il a un service sécurité, même à Nice. Alors, je pensais que c'était un homme populaire et pourtant, il en a besoin. Et pourtant, ce n'est pas une personnalité menacée. Et c'est un service privé qui doit, à mon sens, être payé par la ville de Nice. Les Niçois doivent apprécier. Mais au-delà de cela, il sort des bêtises, j'allais dire un gros mot, plus grosses que lui. Il explique, par exemple, que le personnel de la région est passé de 1000 à 5000 personnes sans transfert de compétences. On a juste récupéré 3500 personnes qui sont les agents régionaux des lycées. C'est ça la réalité des frais de fonctionnement. Alors il annonce qu'il va baisser de 30% les frais de fonctionnement. Je veux dire, faites un calcul simple. 30% des frais de fonctionnement, il ne pourra pas toucher au personnel des lycées. Parce que ça voudrait dire de supprimer 10 personnes dans chacun de nos lycées. Donc il va taper sur quoi? Les subventions. Et tout ce qu'il n'aime pas, la culture, le sport, la jeunesse, tout ce que ces troupes ont toujours refusé de voter quand ils étaient dans l'opposition à la région.
Vous, vous ne toucherez pas aux subventions à la culture, par exemple?
Sur la culture, je prends un engagement double. D'abord, la sanctuarisation du budget, mais avant de parler fric, il faudrait qu'on parle de l'enjeu culturel, mais je sais qu'ici, vous l'avez en tête. La sanctuarisation du budget, mais j'ai aussi la volonté de faire en sorte qu'on puisse avoir des lignes d'action culturelle dans chacune des directions. Dans l'économie, dans la formation, dans l'apprentissage. Parce que je pense que c'est aussi faire vivre la culture, non pas comme une politique en soi, mais comme une transversalité de la politique. Donc je suis convaincu qu'avec ce moyen-là, je pourrais augmenter le budget de la culture, alors même qu'on est dans un contexte budgétaire où il n'y aura pas d'augmentation des moyens de la région.
Ça sera facile à expliquer ça aux électeurs au moment où ils se serrent la ceinture, où il y a des prérogatives qui vont être diminuées. On augmente la culture, on sanctuarise, mais en plus, on augmente. Ça, c'est votre vœu, c'est ça?
Mais je crois qu'au moment où les temps sont difficiles, la culture et renforcer la culture, c'est au contraire donner de la liberté, donner du sourire, donner de l'espérance, donner de l'espoir. Et donc, c'est pas parce qu'on est dans un moment difficile qu'il faut sacrifier la culture. C'est tout l'inverse. Je crois vraiment que c'est tout l'inverse.
Alors que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a 6 départements qui donnent chacun à la culture. Il y a des agglomérations, des communautés d'agglos qui donnent aussi à la culture. Il faut rajouter une strate supplémentaire qui donnerait à la culture, celle de la région?
D'abord, elle est déjà présente, la région, et heureusement qu'elle est présente. Et donc, je pense qu'il
Mais
faut
elle
pas...
pourrait pas s'en retirer?
Ah ben, elle pourrait parfaitement s'en retirer. Je vous dis juste que c'est pas mon choix. Parce que je crois que la culture, c'est un élément de l'émancipation de chacun, qui est une réponse, et je reviens sur votre première question, à apporter à ces jeunes qui sont paumés dans les quartiers. Et si vous leur tendez la main par l'option culturelle, par l'ambition culturelle, peut-être que vous pouvez les aider. Alors on peut décider de considérer que la culture ne sert à rien, voire même qu'elle est provocatrice. On pourrait se réfugier derrière les cultures régionales avec de jolis costumes et du joli folklore.
Rappelons que vous êtes pour les langues régionales quand même.
Donc... Je suis partisan de la reconnaissance des langues régionales, mais je ne parle pas provençal. Par contre, je sais que la Provence a une histoire et que je pense que faire vivre cette histoire, c'est aussi une façon pour moi de me construire.
Michel?
Désolé de vous ramener un dossier gouvernemental, mais de fait, le gouvernement programme une baisse de la dotation aux collectivités territoriales. Donc c'est sur un schéma de réduction des financements qu'il faut projeter l'action de la région. Donc il va falloir faire des économies quelque part.
Le budget de la région pour les auditeurs, c'est 2 milliards à peu près.
Hein. 2 milliards 100, oui.
Où? À quel endroit? Donc si ce n'est pas la culture, ça sera où les...
D'abord, un propos global. L'État ne baisse pas les dotations des collectivités locales. L'État a décidé de dépenser 50 milliards d'euros de moins de dépenses publiques, dont une partie pour les collectivités locales. comme les dotations de l'État aux collectivités locales, c'est 20% de ce budget, on fait porter l'effort sur 20% des collectivités locales. Et donc, il faut faire des choix. Moi, je les ai faits comme maire de Fort-Calquier. J'ai baissé mon budget de fonctionnement et j'ai augmenté mon budget d'investissement. Mais j'ai baissé aucune des subventions, notamment à la culture, parce que dans mon petit village de Fort-Calquier, la culture, c'est important.
Donc, je repose la question. Donc, vous avez dit qu'au niveau du fonctionnement de la région, il n'y avait pas de souci majeur. Hein, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, la culture, on ne touche pas. Ce n'est pas pourtant une prérogative principale. À quel endroit on peut faire des économies, réguler les dépenses?
Il y a une réponse, c'est qu'on va devoir inventer la nouvelle région avec des compétences précises. Nous avons perdu la clause de compétences générales. Alors la région, c'est vrai qu'elle s'éparpillait sur énormément de sujets. Donc je pense qu'il va falloir cibler sur un certain nombre de priorités. La culture fait partie de ces priorités. Je suis très surpris que vous puissiez, l'un et l'autre, mettre en cause cela comme un élément de priorité.
Non, pas du tout. Mais rien.
Mais dans vos questions, je pourrais le sentir.
Nous, on pose des questions que les auditeurs sont susceptibles de se poser, c'est tout.
Mais moi, je fais confiance aux lecteurs du Ravi et aux auditeurs de Radio Grenouille pour savoir l'importance de la culture comme un élément d'émancipation personnelle. La fraternité, c'est le collectif. Mais l'émancipation, elle est majeure. Dans cette société d'uniformisation, de mondialisation, je pense qu'il est important de donner à chacun une arme. Et donc, je vais faire une proposition. Moi, je veux doter tous les lycéens, demain, et les étudiants d'un pass culture. Pour qu'ils aient la possibilité d'acheter un livre, deux livres, pour qu'ils puissent aller au cinéma.
Ça existe déjà dans le département, hein, plus ou moins.
Dans certains, du coup, je veux l'accorder à tous. Et la région pourra le porter. On a fait Zoo Transport, moi je veux faire Zoo Culture aussi.
D'accord.
Vous voyez, j'enfonce le clou, hein, je pourrais vous dire, on va faire des économies, mais
on
non,
va, on va
pas sur ce
on
sujet.
On va évacuer quand même le
Il
sujet.
Il n'est pas négociable.
On va évacuer le sujet de la Villa Méditerranée, puisque vos deux adversaires, que ce soit Le Pen ou Estrosi, en parlent. Ils ont tous des ambitions
Ils
bien précises
vendre.
Pour cette Villa Méditerranée, qui a coûté quand même 70 millions d'euros, c'est ça? Qui coûte à l'entretien 4 millions, un peu plus de 4 millions par an. C'est énorme, Christophe Castaner, c'est énorme.
Deux réponses. D'abord, je n'aurais pas fait la Villa Méditerranée. Voilà. Très clairement.
Vous dites que c'est une erreur de Michel Vauzelle ?
Non, la question n'est pas de savoir si c'est une erreur de Michel Vauzelle.
Vous dites, oui, je ne l'aurais pas fait, mais en même temps, ce n'est pas une erreur.
J'essaie d'être cohérent, et je pense que vous avez la mémoire tout à l'heure, je vous ai dit que Michel Vauzelle avait un tropisme sur l'international que je n'ai pas forcément. Mais aujourd'hui, elle est là. Et donc, soit on en fait un argument comptable, d'épicier, de boutiquier.
On va parler par litote.
Comme le fait.
C'est une erreur, cette Villa Méditerranée, de la part de
non, alors,
Michel Vauzelle.
Maintenant, je vais la défendre. Et je peux la défendre. D'abord, il y a 560 000 personnes qui sont venues à la Villa Méditerranée
cette
année.
Ce qui est
très peu. C'est pas mal, hein. Franchement, des musées.
110 millions d'euros.
560 000 personnes qui viennent à Villa Méditerranée. Souvent, on va comparer avec le musée du sport de Nice, dont on parle peu, et sur lequel il y a absolument des gains qui vont. Et donc, très clairement, on peut revendiquer ça. Mais moi, je vais plus loin. Moi, je veux faire de la Villa Méditerranée l'ambassade économique de cette région vers l'Afrique. Aujourd'hui, on vient de doubler les capacités d'usage du canal de Suez. L'Afrique connaît un développement et une croissance de PIB qui est 3 fois supérieure au reste de l'Europe. Le continent africain, c'est le continent du développement dans les 15 ans, 20 ans qui viennent. On a une identité méditerranéenne, on a des liens forts avec l'Afrique. Ben, faisons de la Villa Méditerranée l'ambassade économique de cette région, de Marseille, notre capitale régionale, et de cette région vers l'Afrique.
Vous vous rendez compte que chaque fois que vous employez le mot Afrique, vous perdez un électeur dans l'ambiance générale
Je vais vous faire une confidence. Moi, j'avais appris un truc dans la communication, c'est qu'en même temps, il fallait adapter son discours au public. Donc, dans l'idée, il faut faire des phrases simples si vous êtes sur TF1. Et puis, si vous êtes sur France Culture, vous pouvez tenter des phrases un peu plus compliquées. Moi, j'ai le sentiment que des gens qui ont la culture d'écouter Radio Grenouille et qui lisent leur avis sont capables de comprendre que l'Afrique n'est pas une peur, mais c'est plutôt une ambition de développement économique pour eux comme pour nous.
Michel ?
L'emploi, c'est une, si ce n'est la compétence principale maintenant des régions, après la réforme. Vraiment, une institution comme la région peut être un levier concrètement pour créer de l'emploi et mettre en dynamique un territoire. C'est un peu techno comme truc, hein, mais comme on est effectivement sur Radio Grenouille, les gens vont suivre.
Non, mais d'abord, la loi NOTRe qui organise tout ça pose le principe de la compétence forte. Mais la loi NOTRe, elle ne va pas assez loin. Ça reste une loi un peu molle. C'est une loi social-démocrate, vous allez me dire. Et donc, du coup, elle ne va peut-être pas assez loin. Mais c'est vrai qu'elle a posé le principe de cette compétence économique. Donc oui, je crois qu'on peut être un effet de levier puissant, notamment par le biais de la formation, parce qu'on sait bien le rapport entre formation et emploi qui est particulièrement important. Mais aussi dans le développement économique. Moi, je crois dans l'entreprise pour créer de l'emploi. Et aujourd'hui, si je prends le couple Banque publique d'investissement que nous avons créé il y a 3 ans, et les interventions de la région, cette année, c'est 600 millions d'euros qui ont été injectés dans l'économie régionale. C'est 8500 entreprises qui ont été accompagnées. Donc oui, je crois qu'on a un vrai effet de levier, peut-être pas assez puissant par rapport aux autres régions européennes. Ça, c'est la conséquence de la loi qui va rentrer en vigueur. Mais on a un vrai effet de levier.
Un secteur en particulier, ou quand on dit emploi, économie, c'est vaste, il y a un secteur en particulier sur lequel vous allez bien vous concentrer ?
Alors c'est compliqué de répondre, parce que cette région elle a comme particularité d'avoir plusieurs niveaux d'excellence sur plusieurs sujets, et au fond, aucun pôle d'excellence qui domine les autres. Vous avez des régions qui sont très marquées, Midi-Pyrénées, c'est évidemment l'aéronautique. Alors chez nous, l'aéronautique, c'est pas quelque chose qui apparaît. Et pourtant, c'est 40 000 emplois, non, c'est 25 000 emplois et c'est 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a pas mal de pôles d'excellence sur l'agriculture et sur la transformation agricole, sur le tourisme. Mais prenez l'exemple, j'en ai d'autres, mais prenez l'exemple du tourisme. Toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, c'est un sujet majeur, mais c'est un marqueur sur lequel on n'est pas présent. Pourquoi ? Parce qu'on a deux comités régionaux de tourisme, parce qu'on n'a jamais eu le courage de fusionner Marseille et Nice.
Voilà, justement, concrètement, est-ce que vous allez fusionner ces deux
structures ? Ça me paraît absolument indispensable
jusqu'à
présent.
Et elles vont être localisées où, alors ?
Mais, alors, deux choses. D'abord, je ferai tout, contrairement à Estrosi, qui s'est toujours opposé à fusionner les deux pour qu'elles soient fusionnées, pour éviter qu'elles se tirent la bourre entre elles et négligent l'arrière-pays, qui est particulièrement important en matière de développement touristique. Et ensuite, il ne s'agit pas de centraliser les choses. Parce que la région monte en puissance sur certains sujets, il va falloir qu'elle invente une déconcentration de la région.
Alors comment vous allez faire ?
Parce que si tout s'organise...
Vous allez fusionner, mais créer de multiples... Ce que j'économise d'une main, je le dépense de l'autre ?
Mais, enfin, je ne sais pas...
Enfin là, pour l'instant, il y a deux bureaux, vous allez en créer quatre ?
J'ai l'impression... Mais pourquoi pas ? Mais simplement, je ne veux pas créer des bureaux, je veux m'appuyer sur les opérateurs de terrain. Je prends l'exemple de l'économie. Moi, je veux qu'on ait une action économique qui soit construite au niveau de chaque bassin d'emploi. Parce que les réponses que je dois apporter sur le bassin d'emploi de Berlétan ne sont pas les mêmes que celles que je dois apporter sur le bassin d'emploi de Digne. Et donc, du coup, je veux m'appuyer sur les structures existantes, mais je veux que la région déconcentre son pouvoir. Elle va organiser globalement la solidarité territoriale, mais ensuite, elle doit déconcentrer en s'appuyant sur les CCI, en s'appuyant sur les opérateurs locaux qui existent.
Déconcentrer sans augmenter la masse salariale, sans augmenter le personnel ?
On n'a pas le choix. Donc votre question, elle est totalement pertinente. Mais de toute façon, on n'aura pas de ressources nouvelles, surtout que je prends comme premier engagement celui de ne pas augmenter la fiscalité, quelle qu'elle soit, dans la région, on peut disposer. Donc à partir de là, il faudra faire à l'économie et mieux gérer. Il ne s'agit pas d'empiler des structures, mais il s'agit de dire à une structure sur un territoire, tu es en responsabilité. Aujourd'hui, Pôle emploi, par exemple, travaille sur la logique des bassins d'emploi, mais pas le département des Alpes-de-Haute-Provence dans les Alpes-de-Haute-Provence. Mais moi, je veux travailler à l'échelle pertinente des bassins d'emploi qui sont construits sur un truc tout con, c'est le transport entre le domicile et le travail. Au fond, ce que font tous les habitants de cette région tous les jours.
Michel ?
Alors, il y a des auditeurs de Radio Grenoble qui sont trompés, sont tombés sur le débat sur Europe 1, débat avec vous, tous les candidats. Et il était question, tout le monde parlait d'un guichet unique pour l'emploi. Mais alors, quelle est la spécificité de celui que vous envisagez de créer ? Est-ce que c'est la même proposition de tous les côtés, ou est-ce que vous avez quelque chose de particulier à proposer ?
Mais moi, je ne revendique pas un guichet unique parce que je pense qu'il n'y a pas une politique pour toute la population, pour toutes les entreprises. On a créé des fonds à la région, il faudra compléter, qui interviennent différemment pour les entreprises de taille moyenne ou pour les petites entreprises. Et donc souvent, la simplification ou le simplisme, ce sont des jolis mots pendant une période électorale, mais ce n'est pas adapté à la réalité. Donc moi, je ne veux pas un guichet unique, mais aujourd'hui, avec la Banque publique d'investissement, vous avez un numéro de téléphone unique où une entreprise peut téléphoner pour dire « voilà mon problème, quelle est la solution ?» Donc ça existe déjà. Donc je ne veux pas m'enfermer dans la logique du guichet unique. Par contre, je veux territorialiser nos politiques parce que c'est là où on les met en œuvre, mais en plus, c'est là où on invente. Il y a de l'intelligence sur nos territoires, il y a de l'intelligence dans nos quartiers.
Michel ? Transport, autre gros dossier et principale compétence de la région. Tout le monde a en tête la question des TER qui n'arrivent pas à l'heure. Là, ça fait partie des difficultés d'un bilan à assumer peut-être. Et comment on peut changer les choses ?
D'abord, 89% des trains arrivent à l'heure. Ça veut dire qu'il y en a quand même 81% des trains arrivent à l'heure. Ça veut dire qu'il y en a 19% qui arrivent avec plus de 5 minutes de retard. Et c'est insupportable. Surtout quand il est annulé ou qu'il arrive avec deux plombes de retard. Surtout quand vous allez au boulot. Et donc effectivement, il faut mettre des moyens de pression plus forts sur la SNCF. Moi, je veux changer de regard. On a fait plus de trains. Et objectivement, sous l'autorité de Michel Vaudet, c'est 3 milliards d'euros qui ont été investis. On a réouvert des lignes alors qu'on avait vécu un siècle entier à fermer des lignes. Et donc, du coup, on a augmenté par 3 la fréquentation de nos trains. 110 000 personnes par jour qui aujourd'hui utilisent les TER. Je pense qu'il faut qu'on passe de la logique du plus de trains à mieux de trains. Des trains où on soit assis. des trains où on soit informé, des trains qui soient à l'heure. Et donc, on va avoir la négociation, la nouvelle négociation avec la SNCF. On va consacrer l'année 2016 à cela.
Concrètement, la SNCF est saturée. Hein. La SNCF négocie et très dure d'abord dans ses négociations. Elle dure très, très longtemps. Ce que l'électeur, ou surtout le consommateur, l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est du concret sur un espace-temps assez réduit quand même. Et ça, la SNCF ne peut pas le fournir.
Si. Regardez les chiffres de 2015, où on voit, sous l'autorité de Jean-Yves Petit, vice-président de la région, adversaire pour le premier tour de moi, donc vous voyez je fais du prosélytisme pour toutes les listes, il pourra témoigner de l'amélioration du service parce que la SNCF a enfin compris qu'il fallait des femmes et des hommes derrière des trains. Toute la difficulté c'est que vous avez trois personnes qui sont nécessaires pour un train et qu'une est malade, elle n'était pas remplacée, le train est annulé. Et deuxième élément, c'est aussi parce qu'on a beaucoup investi sur les infrastructures de transport que du coup on est dans une situation d'avoir généré nous-mêmes par ces travaux de nombreux retards. On est aujourd'hui dans une phase où même s'il restera des travaux, moi j'ai un programme de 500 millions d'euros d'investissement sur les infrastructures qui sont encore nécessaires dans le mandat qui vient, mais très clairement on n'est plus dans la même politique volontariste et je veux vraiment passer du plus de trains au mieux de trains.
Si la SNCF ne le propose pas, vous envisagez le privé ?
Moi, j'ai
une mise en concurrence ?
Moi alors c'est une différence là par contre avec la liste du Front de Gauche. Si la SNCF ne fait pas le boulot pour lequel je la paye, je suis prêt d'une part à la sanctionner mais surtout à demander que les usagers soient remboursés et d'autre part à la mettre en concurrence si c'est nécessaire.
Ah, donc on peut imaginer dans les alentours 2020, c'est ça ?
Oui, l'arrivée de la concurrence est possible à ce moment-là.
2020, on peut imaginer la région partenaire d'une compagnie privée.
Si la SNCF ne fait pas son boulot, je n'ai pas vocation à financer la SNCF pour ne pas faire son boulot.
Michel ?
Dans le catalogue de la loi Macron, il y a un article qui ouvre la concurrence au niveau des bus régionaux. Et donc là, c'est tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des 8 bus, y compris de labellisé SNCF, qui font des lignes Marseille, Nice, etc. Est-ce que là, ce n'est pas un peu contradictoire et vous allez gérer ça à la région, puisque c'est les transports hein, dans leur globalité. Est-ce que ce n'est pas contradictoire de lancer des bus diesel, d'ailleurs, au passage, sur les routes de la région, quand la Cour des comptes dit bah, les lignes intercités, ce n'est peut-être pas rentable, il y a une difficulté en tout cas.
Des lignes, il faut donc, rajouter des lignes qui sont totalement ankylosées et bouchées. Hein,
Votre priorité, c'est la route, c'est le train, c'est les deux
Non, moi, c'est le transport public. Mm-hmm. Le transport public à la région, c'est à la fois du TER et à la fois du LER, ce sont des bus. Et ça fait très longtemps que la région fait du LER bien avant la loi Macron. La différence avec les LER et les bus dits Macron, c'est que le principe d'un TER ou d'un LER, c'est qu'il s'arrête dans toutes les gares ou dans toutes les communes. Alors que la loi Macron prévoit non pas de concurrencer les TER, sortez du fantasme, elle prévoit que des bus qui doivent aller d'un point à un autre sans escale d'un minimum 100 km. Et donc vous voyez que déjà on n'a plus rien à voir avec les TER ou les LER, peuvent concurrencer les lignes. Parce qu'effectivement, on peut monter demain et on pourra monter demain en bus, et donc en transport collectif, à Paris, pour 15, 20, 30 euros, quand il faut 100 euros en TGV. Et s'il y a des auditeurs et des lecteurs du Ravi qui ont envie de monter à Paris pour 15, 20, 30 euros, et que je le leur interdis, parce que je suis sur une loi qui pose le principe du monopole absolu de la SNCF, alors qu'en Allemagne, vous avez 12 millions de personnes qui voyagent en bus, je me dis que donner la possibilité aux gens de voyager pour moins cher, c'est pas totalement idiot. C'est ça aussi la loi Macron. Alors on peut la lire de différentes façons. On peut dire, et je comprends que la CGT SNCF le dise ainsi, c'est une concurrence déloyale. Mais c'est pas une concurrence déloyale par rapport à nos trains, parce que, ni nos bus LER, parce que très clairement, ils n'ont pas la même fonction.
Alors, juste un dossier dont on parle pas beaucoup, le président de la région sortant s'exprimait pas trop là-dessus non plus. La ligne LGV pour vous, c'est pertinent, c'est à enterrer, il faut pas en parler, il faut plus en parler.
On en parle encore. Et dans le contrat de plan, on en parle. C'est-à-dire qu'on va intervenir très lourdement sur le pôle niçois et sur le pôle marseillais, ce qui devrait régler 80% des problèmes. Ensuite, on a un vrai souci de trajet. Et donc, du coup, on va rester actuellement sur les lignes actuelles telles qu'elles existent. Et quand on aura réglé 80% des problèmes, restera qu'une seule chose, c'est la vitesse. Et je crois qu'on n'est plus dans la même société de la vitesse que celle qu'on connaissait
avant.
Mais
vous êtes pour, en tant que président, futur président, pardon ?
Moi je suis contre cette ligne qui était envisagée au nord des Bouches-du-Rhône, au nord du Var, et qui permettait d'aller vite. Parce que je pense qu'on n'est plus dans la génération du vite, mais plutôt du bien, du mieux.
Oui. Alors on fait un truc un peu miracle, on parle d'emploi, on parle de transport, on parle des compétences de la région, mais quand on assiste au débat sur les régionales, on entend d'autres sujets. Monsieur Estrosi, Madame Marion Maréchal-Le Pen parlent d'insécurité, parlent de menus à destination des musulmans ou pas. Enfin, toutes ces thématiques-là, vous les vivez comment ? Enfin, elles vous paraissent parasiter le débat public dans le temps qui est le nôtre ?
On abordait le sujet du national et du local tout à l'heure, et donc c'est toute la difficulté. Regardez comme la question des réfugiés a envahi le débat. Quand vous savez aujourd'hui que pour le préfet de Marseille, il s'agit d'accompagner quelques centaines de personnes. Quand vous savez que ce dont on parle sur les réfugiés, vous avez noté d'ailleurs que moi je parle de réfugiés, la droite parle de migrants et l'extrême droite parle de clandestins. Sur la question des réfugiés, on parle de 2400, 2500 personnes qui devraient être accueillies dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce qu'une région de 5 millions d'habitants n'est pas en capacité d'accueillir 2500 femmes, enfants et hommes? Si ce n'est pas le cas, il ne faut plus faire de politique. Mmh. Il faut les laisser crever la gueule ouverte dans la Méditerranée. Mais surtout, pas avoir un discours angélique et langue de bois. Il faut dire, oui, je les laisse crever et je vais continuer à me baigner en Méditerranée. Moi, je refuse ça.
En même temps, Christophe Castaner, la réalité vous rattrape assez rapidement. Les sondages sont là pour prouver que votre discours accroche moins, pour l'instant, accroche moins que celui de vos adversaires qui, eux,
je m'en fous.
Travaillent sur la phobie de l'autre, de l'étranger.
Bien sûr. Et est-ce alors, que, est-ce que je vais leur courir derrière.
Est-ce que vous pensez, par exemple, que Michel Bozet, le président sortant, vous aide forcément en parlant des réfugiés, en attribuant même une certaine somme pour accueillir les réfugiés, alors que l'ambiance dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est plutôt au renfermement et à la phobie de l'autre?
Il m'aide à montrer ce que c'est qu'une politique de gauche. Et donc, je l'assume parfaitement.
Vous ne parlez pas en langue de bois, là?
Non. Bah, je crois pas. Hein.
Ça vole pas la planche, ça.
Mais attendez, alors vous voulez que je tienne quoi comme discours? Qu'il faut avoir peur des immigrés et que, franchement, parmi ces hommes et ces femmes, il y a certainement de dangereux terroristes. C'est ce que nous a annoncé Estrosi. Tous ces gentils réfugiés, il y a des membres de Daesh qui sont derrière. Puis c'est la cinquième colonne. Je vais tenir ce discours-là, je ne serais pas crédible et je ne serais pas très bon. Je pense même qu'un contradicteur pourrait facilement, comme vous le faites depuis tout à l'heure, m'amener une contradiction et j'aurais du mal. Non, ce n'est pas mon discours, ce n'est pas mon fonds de commerce. Et si pour gagner, je dois tenir ce discours-là, je retourne immédiatement à Forcalquier où je suis très bien.
Le Front National affiche, on peine à voir la petite flamme ou même la mention Front National sur les affiches qui sont placardées dans les rues. Et vous dites pourtant, ça serait vraiment quelque chose de dramatique, ce parti à la tête de cette région. Marion Maréchal Le Pen, c'est pour vous un visage très classique de l'extrême droite ou finalement elle a su changer un petit peu le logiciel du grand-père?
Marine Le Pen a changé ou a fait semblant de changer le logiciel du grand-père. Marion Maréchal paraît, quand on regarde notamment ce qu'elle écrit sur Twitter ou sur ses réseaux, paraît même pire que le grand-père sur certaines de ses expressions. Mais moi, ça n'est pas la personne qui est mon adversaire, c'est les idées qu'elle incarne, même si effectivement, ils ont su dédiaboliser ces derniers temps et qu'ils savent cacher ces idées-là. Mais la réalité, c'est quoi? C'est un discours de haine, un discours de stigmatisation. Vous abordez la question des repas scolaires. Tout le monde se fout de savoir s'il y a des menus de substitution dans nos cantines, parce que ça fait 30 ans qu'on a systématiquement des menus de substitution qui permet à quelqu'un dont les parents sont de confession juive ou musulmane de manger normalement pendant l'école. Et vous avez vu que cet été, on a des élus de droite classiques qui, au nom de la laïcité, ont fait des procès et ont tenu gain de cause. Et on a Marion Maréchal Le Pen qui nous dit « moi, je reviendrai là-dessus ». Ben, moi, je vais plus loin encore. Je vous propose que chaque fois qu'il y a de la viande à manger dans les lycées ou dans les CFA, on propose un menu végétarien et si en plus on peut faire du bio et de la filière courte, j'approuve.
Christophe Castaner, est-ce que vous voyez une différence, vous, entre Christian Estrosi et Marion Maréchal Le Pen? Est-ce que pour vous, c'est les mêmes personnes, c'est le même programme, c'est le même logiciel de pensée, ou est-ce qu'il y a encore une différence entre les Républicains et le Front National?
Il y a deux questions dans votre question. Je vois une vraie différence entre les Républicains et le Front National. Parce qu'il y a deux partis qui sont dans la République, mais il y a un parti qui est républicain, même si je trouve que le nom est un peu usurpé quand on voit certaines de leurs déclarations. À l'inverse, Christian Estrosi, même s'il cherche à lisser son personnage en ce moment, a tenu les pires propos. Vous savez qu'il se tire toujours la bourre avec Morano pour inventer la blague du jour. Et donc, du coup, a tenu les pires propos sur ces sujets. J'évoquais la cinquième colonne, j'évoquais le blocus, pour évoquer le blocus méditerranéen. Ciotti qui proposait qu'on affecte les Mistral, vous savez, ces deux porte-hélicoptères, à la Méditerranée pour couler les bateaux des migrants. C'est ça la réalité de leur discours. Et donc, hélas, je ne vois pas une grande différence dans ce qu'ils sont réellement.
Vous partagez le mot ou la phrase de Cambadélis, premier secrétaire du Parti Socialiste, qui les qualifie de bloc réactionnaire, que ce soit le FN, comme les Républicains? Sous-entendu, vous êtes autre chose. Mais eux, c'est les blocs réactionnaires. Là, c'est quand même étonnant d'entendre ça aujourd'hui, en 2015, dans la bouche du premier secrétaire du Parti Socialiste.
Mais c'est quoi être un bloc réactionnaire? C'est tenir le discours permanent du « c'était mieux avant ». Et c'est ça qui nous envahit dans cette campagne électorale.
En même temps, le bloc réactionnaire, le mot même, appartient au passé.
la notion de réaction. Oui. Mais la réalité, c'est ce qu'ils incarnent, c'est ce qu'ils portent. Ce discours du « c'était mieux avant », c'était vachement bien à l'époque où on mourait une fois sur cinq au moment d'un accouchement, où les hommes étaient tellement généreux qu'ils géraient le compte de leur épouse. Bon, elles n'avaient pas le droit. L'époque, et c'est pas si vieux que ça, ça remonte à Mitterrand, où n'était qualifié de viol que la pénétration d'un sexe masculin dans un sexe féminin, tout simplement parce qu'on protégeait la mère, pas la femme, et peu importe ce qui advenait de la femme. C'est ça le « c'était mieux avant ». Et au fond, c'est ce qui porte, c'est le discours que j'ai entendu moi, on s'éloigne du sujet, mais je suis député, j'ai tenu à assister aux 15 jours de débat sur le mariage pour tous. Pas parce que c'était un texte à moi, moi je suis un affreux techno enfermé à la commission des finances à m'occuper de gros sous, mais j'ai tenu à être bon élève, à être présent. Et on a eu 1000 interventions, même plus que ça, de 2 minutes, où il y a systématiquement un double discours. D'une part, c'était la NDPD. Excusez-moi, je suis un peu brutal, mais c'est vraiment ce que j'ai entendu. Et d'autre part, le fait qu'il ne fallait pas casser la famille, parce que dans la famille, il y avait quand même une gentille maman qui doit s'occuper des gentils enfants. C'est ça le bloc réactionnaire. Et aujourd'hui, effectivement, il est incarné par la droite comme par l'extrême droite.
En même temps, ça ne vous arrange pas d'avoir un Front National qui soit présent? On a vu Michel Bozel qui a gagné quand même 3 fois grâce ou avec des triangulaires, les cyniques diront grâce aux triangulaires. Vous, ça vous arrange un peu, non, que cette dynamique existe je suis contre le Front National, non?
Bah, ça m'arrange tellement qu'on va peut-être me demander le soir du premier tour de me retirer de cette élection. Vous avez raison, ça m'arrange.
C'était la prochaine question.
Bah oui, on y vient. Alors je sais que vous ne voulez pas vous projeter dans ce scénario et on peut le comprendre. Il n'empêche, vu ce qu'on entend, vous parlez de droite extrême et d'extrême droite, on vous imagine mal, si, le cas échéant, appeler à voter Christian Estrosi pour défendre le camp républicain. Est-ce que vous seriez prêt à ça, si nécessaire, à cette extrémité-là?
Vous avez raison, on m'imagine mal. Vous avez entendu mes propos précédents et maintenant je vais vous dire, non, Christian Estrosi finalement est formidable. Imaginez même que je dise à mes électeurs. Et très clairement, je pense que les électeurs ne l'entendront pas et ne l'entendraient pas. Moi, je suis intimement convaincu que Marion Maréchal Le Pen ne sera pas au niveau que les sondages lui prêtent. Et je pense que la question ne se posera pas ainsi.
36,
mais je suis
36,
aussi
36% à peu près.
Oui, ou même un peu plus dans un 38, sondage. Alors, oui. C'est Odoxa, mais avec Odoxa, c'est toujours le FN qui gagne à la fin. Et donc, je ne suis pas dans ce schéma-là. Et je suis aussi dans un schéma où la gauche, parce que c'est la gauche dont je parle, avec les deux listes qui sont présentes, aura la capacité à être en tête et à virer en tête. Toute la difficulté, c'est la séparation de la gauche. Parce que si nous étions ensemble, comme ce fut le cas lors des premiers sondages, on était même devant Christian Estrosi.
Là, vous parlez au passé, ça se fera pas, vous serez séparés.
C'est pour ça qu'il faudra cumuler la gauche. Et que je parle de la gauche, c'est la gauche cumulée, c'est la liste que je conduis, la liste de Sophie, et c'est ça qui sera déterminant.
Mais donc il n'y aura pas, en aucun cas de figure possible, un appel à faire barrage au Front National.
Le Front Républicain, c'est terminé?
D'abord, c'est les prétendus républicains qui ont tué le Front Républicain. C'est insupportable de voir qu'on demande au Parti Socialiste d'être républicain alors qu'on ne demande pas aux républicains d'être eux-mêmes républicains. On l'a vu au départemental.
Non, on a vu ce que ça a coûté et à Marseille, on est bien placé pour le savoir. Il n'y a pas eu d'appel au Front Républicain. Le Front National s'est enquisté dans les quartiers nord en remportant une mairie, celle du 13-14. Et le maire est par la suite devenu carrément sénateur. Donc il y a un vrai danger et après une décision pareille, il y a du concret également.
C'est dans une lunette, il y a deux verres.
Oui.
Donc là, vous me parlez d'un cas où effectivement le Parti Socialiste ne s'est pas retiré. Mais je peux vous parler aussi des dernières départementales dans les Bouches-du-Rhône où systématiquement, quand l'extrême droite était face au Parti Socialiste, jamais les prétendus républicains n'ont appelé à faire obstacle à l'extrême droite. C'est ça la réalité. Mais j'ai vu pire. J'ai vu dans mon département des Alpes-de-Haute-Provence des situations où vous aviez un candidat, un binôme socialiste contre un binôme Front National, et j'ai vu les candidats Europe Écologie et du Front de Gauche ne pas appeler à voter pour le Parti Socialiste. Mmh. Vous voyez, comme quoi, je crois qu'on a de vrais engagements à tenir.
Concrètement, pour vous, Christophe Castaner, vous maintenez, vous vous désistez?
Concrètement, la question ne se pose pas.
Ah, je vous la pose, moi.
Ben, vous avez raison de me la poser, et je vous ai répondu. Aujourd'hui, très clairement, l'attitude, le discours, la réalité de ce qu'est Christian Estrosi
donc on peut
fait
imaginer
que notre électorat
que si demain,
ne nous souffra pas.
Si demain, Christian Estrosi infléchit un petit peu son discours sur 2 ou 3 thématiques, on peut supposer que Christophe Castaner va appeler, s'il n'arrive pas au deuxième tour, va appeler à voter...
Si demain, Christian Estrosi était un vrai républicain, je pense qu'il n'y aurait pas d'hésitation de ma part. Je fais partie de ceux qui étaient dans la rue en 2002 pour appeler à voter Jacques Chirac, et je ne regrette pas d'avoir appelé et d'avoir voté Jacques Chirac.
Michel ?
Première décision quand vous serez président de la région.
La marque de la voiture, non?
Ce que j'allais dire, je prends ma voiture de fonction et je roule en Twizy. Non, première décision que je prendrai, c'est de rassurer le personnel de la région. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un personnel qui est stigmatisé, qu'on montre du doigt alors qu'ils font un boulot formidable. C'est les gens des lycées, c'est les gens qui sont au quotidien dans cette mobilisation. C'est ça ma première décision. Et ensuite, c'est de se mettre au boulot, d'éplucher la totalité des engagements financiers. Je n'ai pas dit que je ne ferai pas d'économie. Je veux tout rebalayer. Oh, j'ai pas besoin d'un audit parce que je fais confiance au service financier de la région.
C'est le mot qui est insultant pour le candidat sortant ou
Non, parce qu'il est déjà le cas. Vous savez que Michel Vauzel, il a choisi de confier à des agences de rating, donc Fitch, alors c'est un peu le diable, mais une évaluation chaque année. Non, franchement, ce sont des boîtes indépendantes, c'est parce que vous leur filez dans le marché. Non, c'est parce que vous leur filez dans le marché qui les amène à la conclusion. Et Fitch Rating, chaque année, fait l'évaluation depuis plusieurs années de la région et très clairement dit que la situation est tendue, mais qu'il n'y a aucun problème de gestion de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, je n'ai pas besoin d'un audit supplémentaire. Mais ça, c'est classique. Quand il y a une alternance, on fait un audit.
Donc, pas d'audit, mais on regarde de près les dossiers.
Je n'aurais pas besoin d'auditeur pour cela.
Dernière question, mais en 30 secondes, vous allez nettoyer un petit peu tout ce qui est subvention aux associations réelles, fictives ou autres. On a vu que la région avait connu de nombreux problèmes là-dessus.
Bah, j'espère que c'est déjà le cas. Et donc, tout sujet, toute anomalie. Vous savez, moi, j'ai souhaité aussi, on a abordé la question des Bouches-du-Rhône, j'ai souhaité placer ma campagne dans l'exemplarité, dans la transparence. Et donc, dès qu'il y aura le moindre soupçon, je ferai péter.
Et donc, vous allez vérifier un emploi, une personne réelle.
Ça me paraît également indispensable, tout comme je demanderai aux entreprises aidées de rembourser l'argent quand elles n'atteignent pas leurs objectifs.
Christophe Castaner, je vous remercie. Allez, on se retrouve le mois prochain avec un tout autre candidat. Bye.